a eu une mammectomie, c'est-à-dire qu'on a enlevé le sein, on a fait un curage axillaire, c'est-à-dire qu'on a enlevé les ganglions qui sont dans les selles, il peut arriver que le bras commence à enfler et ce gros bras-là peut être très très invalidant. On peut également avoir des risques après une radiothérapie sur la paroi thoracique. En fait, c'est une forme d'inflammation qu'on observe, mais ça finit par régresser avec le temps.
Oui, il y a aussi certaines femmes qui perdent leurs cheveux après un traitement du cancer du sein. Est-ce que ces cheveux vont repousser?
Oui, bien sûr. Les cheveux repoussent. D'abord, quand ils repoussent, ils sont soyeux. Ils sont même beaux. Bon, maintenant, quand vous êtes dans un environnement où vous pouvez avoir les casques réfrigérants, vous pouvez minorer ce risque-là. Mais chez nous, en Afrique, ici, comme on n'a pas de casque réfrigérant, on observe que la plupart des dames qui prennent des médicaments qu'on appelle des anthracyclines finissent par perdre leurs cheveux, ce qu'on appelle une alopécie. Mais il faut rassurer les dames. C'est pas parce qu'on a perdu les cheveux que ça va pas repousser. Le plus souvent, ça repousse et les cheveux sont même très beaux.
Alphonse Mwaki, depuis la RDC, s'inquiète du coût des traitements du cancer du sein. Est-ce que vous pensez que ces traitements sont accessibles à toutes les femmes, surtout dans les pays en voie de développement?
Ah non, je ne pense pas que toutes les dames puissent accéder au traitement du cancer du sein. En Afrique, vous savez que nous avons des nombreux problèmes de prise en charge. Donc, ce sont les malades qui payent leur traitement. Cependant, il y a d'autres pays comme le Mali où le traitement est quasiment gratuit. J'ai eu un entretien il n'y a pas très longtemps avec un de mes assistants qui est maintenant chef de service là-bas à Bamako, qui m'a dit que la chimiothérapie est gratuite, la radiothérapie est gratuite, mais ça, c'est pour les Maliens.
Et au Congo-Brazzaville, qu'en est-il des traitements?
Au Congo-Brazzaville, le traitement des cancers du sein est payant. Ce sont les malades qui achètent leurs médicaments. Mais il m'arrive d'avoir des malades qui sont dans le service, amenés par les parents. Faute de moyens, ils sont abandonnés dans mon service, on leur donne un lit. Mais si vous êtes dans un lit et que les parents ne sont plus là, ça veut dire que vous pouvez même plus accéder au bilan, parce que le bilan, ce sont les parents qui payent le bilan. Mais si vous n'avez pas de bilan, comment voulez-vous accéder au traitement? Donc les malades sont dans un lit et le plus souvent, ils sont amenés à décéder. Mais quand ils sont dans un lit, il faut les nourrir. Mais qui les nourrit? Et c'est pas l'hôpital qui nourrit, c'est encore le chef de service avec ses collaborateurs qui essaient de trouver un peu d'argent pour acheter un peu de riz, du poisson, des choses comme ça là, pour nourrir ces malades-là. Donc, pour répondre à votre question, le traitement du cancer du sein à Brazzaville, il est payant. Ce sont les malades qui achètent leurs médicaments.
Est-ce qu'il arrive parfois que le gouvernement ou les ONG viennent en aide aux personnes qui souffrent du cancer?
L'an dernier, on a eu un petit coup de pouce de la part du gouvernement, donc il y a eu quelques médicaments. Ce ne sont pas des médicaments princesses qu'on aurait dû utiliser. Ce sont des médicaments intéressants, mais qu'on peut utiliser dans un cas bien précis. Donc, pour me résumer, le traitement est payant. Et il n'est pas seulement payant pour les malades en cancérologie, il est également payant pour les malades qui sont en hématologie. Vous savez que les cancers, vous avez aussi des cancers hématologiques. Les lymphomes sont gérés par nos amis hématologues.
Et ça complique la lutte contre le cancer du sein, notamment si la malade n'a pas les moyens de se payer un traitement.
Bien sûr, bien sûr. Je crois qu'il faut que l'Union africaine prenne une résolution où on doit imposer à tous nos pays la construction des centres anticancéreux. Il n'est pas normal, au 21e siècle, dans des pays modernes comme les nôtres, que les malades atteints de cancer soient abandonnés à eux-mêmes. Et c'est à la limite même inhumain, ça. Il faut qu'on s'organise à prendre en charge, parce que le cancer, madame, c'est pas le paludisme. Hein. Quand on vous annonce bien sûr du cancer, vous avez l'impression que tout s'écroule. C'est la vie de toute une famille qui se bouscule.
À qui devrait revenir la responsabilité d'appuyer financièrement ces malades abandonnés à elles-mêmes?
Il revient à l'État parce qu'on n'a pas beaucoup de cas de cancer. Donc, il y a moyen de prendre en charge ces cancers-là. Vous savez, à Brazzaville, moi, je suis en très grande souffrance. Nous formons des oncologues. Quand ils retournent chez eux, ils font la promotion de la problématique du cancer et on leur construit des centres anticancéreux. Donc, l'idéal serait qu'à Brazzaville, qu'on nous construise des centres anticancéreux où nous pouvons traiter de façon efficace et en régie nos malades.
Après le traitement, comment est-ce que la femme pourra faire pour vivre avec son cancer ou pour éviter qu'elle ressurgisse?
Aujourd'hui, on connaît mieux les cancers. Le cancer n'est plus synonyme de mort comme à l'époque où dès que vous étiez porteur d'un cancer, c'était une mort inéluctable. Non, aujourd'hui, on arrive à guérir de plus en plus les cancers. Donc, il y a eu l'éducation thérapeutique qui est faite, il y a la surveillance. Quand la dame est bien surveillée, il n'y a normalement aucun souci, sauf si la maladie revient. Mais si la maladie revient, il y a encore des traitements et il y en aura toujours.
Quelles sont les chances de guérison du cancer du sein?
Et les chances sont énormes. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, à travers le monde, on arrive à guérir 7 cancers sur 10 avec l'intelligence artificielle qui est en train de faire ses grands pas avec l'amélioration des techniques de diagnostic précoce, avec les traitements intelligents. Parce qu'aujourd'hui, un cancer du sein ne se traite plus de la même façon. Si nous sommes venus avoir un cancer du sein selon les profils moléculaires, selon les profils biologiques, on ne sera pas traité de la même façon. Donc, non seulement on arrivera à guérir beaucoup de cancers du sein, l'idéal soit qu'on arrive à guérir 9 cancers sur 10, et le 10e cancer devra basculer dans ce qu'on appelle les maladies chroniques. Donc, dans les 20-30 années à venir, je crois que les gens vont mourir très très peu du cancer.
Professeur, pourquoi certaines femmes qui ont un cancer du sein ont une ablation de ce sein, mais d'autres pas?
Tout dépend du stade de la maladie. L'ablation, c'est comme la chirurgie. Donc, il y a des indications précises pour faire l'ablation du sein. Si vous avez un nodule beaucoup plus gros dans votre sein et qui ne répond pas à une chirurgie minimaliste comme une tumorectomie, il faut aller enlever le sein. Vous enlevez le sein et vous allez également enlever les ganglions. Bah, aujourd'hui, grâce à ce qu'on appelle la technique du ganglion sentinelle, on ne fait plus de curage schématiquement. Mais nous, comme on n'a pas cette technique à Brazzaville, quand on enlève le sein, on va enlever également les ganglions qui sont sous les selles.
Oumarou Zada Massaoudou veut savoir si le cancer du sein est traitable par la médecine traditionnelle. Je sais que vous faites la médecine moderne, mais elle a posé cette question.
Je ne vais pas ostraciser les tradis thérapeutes, bien au contraire, on en a besoin. Vous savez, lorsqu'on aborde le cancer du sein selon l'angle culturel ou l'angle anthropologique, on n'a pas besoin de ces gens-là, parce que chez nous en Afrique, toute maladie a une signification. On pense que c'est un sorcier, et le sorcier le plus souvent c'est l'oncle que je suis, c'est le papa que je suis, et on va voir ces tradis thérapeutes-là. Moi, je n'ai pas vu un tradis thérapeute guérir une âme d'un cancer du sein, et je serais étonné que ça puisse arriver. Mais ça peut être des traitements complémentaires, pourquoi pas? Il ne faut pas fermer la porte.
Professeur, à partir de quand une femme qui a souffert d'un cancer du sein peut s'estimer être guérie?
Oh, mais disons 5 ans. Encore qu'après 5 ans, la tumeur peut revenir. Mais si après 5 ans, vous n'avez plus de signes, vous êtes en rémission complète, vous pouvez estimer que vous êtes guéri.
En parlant de récidive, Guillaume Omonga, depuis la RDC, il veut savoir qu'est-ce qui peut faire que même après le traitement, la personne finira par avoir la maladie et peut-être même en mourir.
Le cancer, c'est une maladie générale. Quand on découvre le cancer dans un organe, il faut se dire qu'il y a des cellules tumorales qui se promènent à travers les vaisseaux. Donc, ça peut déjà aller se mettre ailleurs. Maintenant, il peut arriver qu'une fois que vous avez traité le cancer du sein, que vos cellules rentrent en phase caissante, comme on le dit, donc ils ne bougent plus. Mais il peut arriver par un mécanisme que nous ne savons pas, que ces cellules-là se réveillent comme ça brutalement et se remettent à coloniser votre organe. Donc, oui, on peut avoir été traité pour un cancer du sein. On a été en rémission complète pendant longtemps, même après 10 ans. Et oui, le cancer revient, malheureusement.
Et c'est au cas par cas, mais ce n'est pas chez toutes les femmes.
Non, pas toutes les femmes. Heureusement, nous avons beaucoup de dames que nous arrivons à guérir du cancer du sein, mais il n'y a pas que le cancer du sein, il y a beaucoup de cancers. Les cancers du col de l'utérus, le cancer de l'ovaire, on arrive à en guérir pas mal. Oui.
Que devrait faire la femme pour bien vivre l'après-traitement de son cancer du sein?
La femme doit rester attentive, tout simplement. Elle doit être vigilante. Dès qu'il y a une anomalie qui apparaît dans le sein, si on avait fait une petite chirurgie, elle doit repartir voir son cancérologue. Oui, bien sûr, il faut repartir immédiatement, il ne faut pas attendre.
Au niveau de Brazzaville, de quel soutien bénéficient les femmes atteintes du cancer du sein?
Au niveau de Brazzaville, il commence à avoir des associations de femmes porteuses de cancer du sein, ou bien des femmes qui ont été guéries du cancer du sein. Donc, il y a un soutien. Je crois que c'est fondamental. Il y a cette forme de solidarité qui s'est installée comme ça. Donc, on les tient psychologiquement. Il se passe des choses. Je crois qu'il y a comme un frémissement. Et c'est bien que des dames qui ont été guéries d'un cancer du sein se montrent à d'autres qui sont porteuses d'un cancer du sein, qui sont en traitement, pour motiver celles qui sont malades à accepter le traitement et aller vers le traitement.
Est-ce qu'éviter de prendre la pilule peut moins exposer la femme au cancer du sein?
À l'époque, on se fantasmait même sur la pilule, parce que quand vous prenez la pilule, vous prenez, ce sont des hormones que vous prenez. On pensait que la pilule pouvait induire un cancer du sein. Cette idée a été battue en brèche. Non, je crois qu'il faut rester tranquille, il faut s'observer.
Il y en a qui veulent savoir s'il y a la ménopause, il y a des choses auxquelles on doit être plus attentif pour éviter d'attraper un cancer du sein. Est-ce que le risque est plus élevé pendant la ménopause ou pas?
Le cancer, c'est d'abord une maladie du vieillissement. Plus on vieillit, plus la probabilité de faire un cancer est élevée. Donc, on a tendance à faire un cancer quand on est ménopausé. C'est pour ça qu'on a décidé à travers le monde, enfin pas encore dans nos pays, que le dépistage se fasse à partir de 50 ans. C'est-à-dire que tous les 2 ans, vous partez faire une mammographie pour la surveillance.
Léo-Émile Kankondé, depuis le Kasaï central en RDC, veut savoir pourquoi jusqu'à ce niveau, les chercheurs ne parviennent pas à maîtriser cette pathologie qu'on appelle cancer du sein.
Ah non, je ne peux pas laisser dire ça. Les cancers sont des affections extrêmement complexe. C'est-à-dire que la manière dont on est un cancer aujourd'hui, c'est quelque chose de très très complexe. Parce que vous avez plusieurs phénomènes qui interviennent. Mais on a fait des avancées considérables. Les traitements que nous appliquions dans les années 80 ne sont pas les traitements du 21e siècle. On a beaucoup progressé dans les traitements. D'abord dans le diagnostic et dans le traitement. Aujourd'hui, on arrive à guérir de plus en plus des femmes atteintes de cancer du sein. Donc on ne peut pas dire que le travail ne se fait pas. Non, les chercheurs travaillent. Je vous ai dit que l'idéal serait que le cancer du sein, même s'il est à un stade très avancé, devenu une maladie chronique et qu'on n'en meurt plus. Plus on va avancer dans le temps, plus la recherche se fait, plus on aura des traitements innovants.
Quelles innovations pourrait-il y avoir ?
chacun aura son traitement. Si vous appelez Madame A, votre traitement demain sera pour Madame A. Et pourtant, avec Madame B, vous avez le même cancer du sein. Mais comme je vous l'ai dit pendant l'émission, les profils biologiques, les profils moléculaires sont totalement différents. Donc les traitements seront donnés en fonction de ces profils-là. Donc il faut rassurer le monsieur que le travail se fait. Nous qui sommes en train de prendre un peu d'âge aujourd'hui parce qu'on tend vers notre finitude, dans 20 ans, nous verrons nos jeunes cancérologues certainement plus outillés, plus armés, avec des traitements innovants.
Le professeur, il y a Alfred Nobel qui a appris que si les femmes donnent naissance aux enfants et qu'elles allaitent leurs enfants, peut-être que ça pourrait diminuer le cancer du sein. Est-ce que c'est vrai?
Oui, c'est vrai. L'allaitement est un facteur protecteur. Parce que quand vous allaitez, ça veut dire que vous avez amené votre sein à maturation. C'est une très bonne chose. C'est pour ça qu'on conseille à nos femmes de faire des enfants. Vous savez que l'Afrique est encore surpeuplée. On a besoin d'enfants.
Donc l'allaitement et la maternité peuvent protéger du cancer du sein.
Ah oui, oui, bien sûr. Il faut encourager nos femmes, nos sœurs, nos enfants à faire des enfants. Il ne faut pas se laisser aller à un discours, à la limite, un peu condescendant qu'on a entendu, où on dit que les Africains font beaucoup d'enfants. On a entendu un discours comme ça, je pense. Je ne vais pas citer le nom de ce président-là. À la limite, c'était même une insulte pour l'Afrique. Nous, on doit faire des enfants. L'Afrique a besoin d'avoir ses enfants. Et il en faut, d'ailleurs.
Est-ce que vous avez un conseil particulier à donner à toutes les femmes, quel que soit leur âge, juste pour se prémunir du cancer du sein, même s'il n'y a pas vraiment une prévention à proprement parler?
Alors, la première chose, c'est qu'elles doivent être regardantes. Elles doivent apprendre à surtout palper les seins. Deuxième chose, elles doivent voir régulièrement un gynécologue. Et puis, à partir de 40 ans, pour ce qui concerne l'Afrique, il faut que les femmes viennent au dépistage, qu'on fasse une mammographie, qu'on regarde s'il n'y a pas de problème. Ça, c'est en Afrique. En Europe, c'est 50 ans. En Afrique, parce que nous, la moyenne d'âge des cancers du sein est plus faible que celle qu'on observe en Europe. Mais c'est surtout se regarder les seins, ne pas attendre que la boule grossisse pour dire que comme je n'ai pas mal, je peux aller voir mon gynécologue ou bien mon médecin généraliste. Dès que vous observez une anomalie, même un mamelon qui s'incurve, une petite plaie qui arrive autour du mamelon, une petite plaie au niveau de la peau du sein, il faut aller voir le médecin. N'attendez pas. Refusez qu'on fasse des scarifications sur le sein. Si vous voyez un gynécologue qui dit je vais vous enlever la boule comme ça, refusez ça. Vous dites non, non, non. Est-ce que vous avez déjà fait un petit prélèvement pour savoir exactement ce qui se passe? C'est le message que vous devez faire passer à nos auditeurs.
Merci beaucoup encore de votre disponibilité.
Oh, madame, c'est moi qui vous remercie.
De suivre l'interview que nous a accordé le professeur Jean-Bernard Kwambon, chef du service de cancérologie médicale au CHU de Brazzaville et directeur du diplôme spécial de cancérologie à l'Université Marien-Ngouabi en République du Congo. Voici à présent le moment de suivre Carnet de santé avec Linor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, un regard sur la gestation pour autrui, un chemin controversé vers la maternité. Un expert explique les complexités de la maternité de substitution et ses implications pour protéger mère et bébé. Enfin, le Malawi milite en faveur d'une réforme des lois sur l'avortement. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour une nouvelle édition de Carnet de santé. C'est un processus par lequel une femme porte un bébé pour un couple ou un individu qui ne peut pas concevoir par lui-même. La maternité de substitution ou gestation pour autrui, GPA, est en plein essor sur le plan mondial. Elle représente une solution pour de nombreuses personnes qui font face à l'infertilité. Dans la maternité de substitution traditionnelle, les ovules proviennent de la mère porteuse. Dans la maternité de substitution gestationnelle, les ovules peuvent être prélevés chez la future mère ou une donneuse. La maternité de substitution est pratiquée pour des raisons non commerciales afin d'aider une personne dans le besoin ou pour des raisons commerciales comme source de revenus pour la mère porteuse. Cette pratique est légale dans plusieurs pays dans le monde, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays africains. Collins Adede nous en parle de Mombasa au Kenya. Le récit est de John Linden.
La maternité de substitution est un processus par lequel une femme porte et met au monde un enfant pour le compte d'un autre couple ou d'une autre personne. Les mères porteuses sont fécondées in vitro. Bien que la plupart des cas restent confidentiels, les statistiques montrent que dans le cas de la maternité de substitution traditionnelle, Le taux de réussite de l'accouchement est d'environ 60%. Le docteur Willy Kikwa, gynécologue à Mombasa, ville côtière du Kenya, explique que la maternité des substitutions gagne en popularité en raison d'une prise de conscience croissante dans la plupart des sociétés africaines.
Nous avons deux types de mères porteuses. La personne qui porte un bébé au nom d'une autre personne est la même que celle qui donne les ovules. Il y a deux façons de procéder. La première consiste à inséminer la femme et la deuxième à faire une fécondation in vitro avec le sperme du donneur pour que la mère porteuse porte le bébé.
Le Kenya fait partie des nombreux pays africains qui ne disposent pas d'une législation claire sur la maternité de substitution. Le docteur Kikwa affirme qu'il n'existe aucune loi qui couvre les techniques de reproduction assistée.
Absolument. Je pense que la législation est en suspens dans de nombreux pays parce que ce n'est pas une priorité. Si vous regardez la classe politique et les gouvernements, ils ne considèrent pas cela comme une priorité. Mais en effet, comme on le dit, pour se considérer comme une personne saine, il faut être sain de corps et d'esprit et même avoir une famille. Il faut donc lui donner la priorité au même titre que d'autres priorités et surtout mettre en place une législation qui protège à la fois la mère porteuse, le donneur et ceux qui pratiquent la gestation pour autrui, de façon à ce que cela se fasse dans un cadre approprié.
Même si une législation claire a été mise en place, la plupart des personnes qui souhaitent essayer la maternité de substitution se heurtent encore à plusieurs obstacles.
La première raison est le coût, parce que c'est un peu cher. Donc on comprend que l'absence des moyens financiers porte les gens à éviter de le faire. La deuxième raison est la stigmatisation. Les gens ne veulent pas que l'on sache qu'ils ont eu recours à une mère porteuse. Et la troisième raison est qu'ils ne sont pas au courant de tout cela. Peu de gens comprennent qu'il existe l'insémination artificielle ou la FIV. Il faut les sensibiliser.
La maternité de substitution suscite des réactions mitigées parmi les femmes au Kenya.
Je ne pense pas que ce soit quelque chose nécessairement mis sur la place publique et dont les gens discutent ouvertement. Mais c'est là et c'est en train de se produire. J'ai rencontré quelques personnes ou simplement suivi des discussions sur le fait que oui, il a fait cela et que le bébé est celui-ci, mais qu'elle a accouché pour sa sœur.
La femme qui a porté cette grossesse s'est déjà attachée au bébé alors qu'il était encore dans l'utérus et il devient donc très difficile de le laisser partir. C'est la raison pour laquelle nous entendons parler de tant de cas devant les tribunaux.
Des médecins comme Kikwa mettent en garde contre la prudence qui s'impose à l'heure où le monde entier adopte les nouvelles technologies pour lutter contre l'infertilité. Les lacunes qui peuvent être utilisées par les criminels pour introduire la traite des êtres humains au nom de la maternité de substitution suscitent des inquiétudes.
Quel est votre avis sur la maternité de substitution? Pensez-vous que dans certaines situations, la gestation pour autrui devait être encouragée ou interdite? Voici quelques réactions de Kigali, Rwanda.
Pour moi, la maternité de substitution est une pratique tout à fait anormale et très gênante parce qu'elle soulève de nombreuses questions. Et je me demande pourquoi quelqu'un doit porter un enfant pour une autre personne. Ce n'est vraiment pas naturel. Mais à cause de certaines circonstances, cela me laisse beaucoup de regrets. Et c'est comme si quelqu'un n'avait pas d'autre option que de se tourner vers une mère porteuse quand j'entends le terme « mère porteuse ».
Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas faire pour quelqu'un. Mettre au monde un enfant, par exemple, et le donner à quelqu'un. Parce que l'amour, le sentiment entre la mère et l'enfant commence lorsque vous êtes enceinte. Durant la grossesse, quand vous êtes assise, vous êtes fatiguée. Quand vous dormez, vous êtes fatiguée. Quand vous marchez, vous êtes fatiguée. Vous souffrez donc plus qu'une personne qui n'est pas enceinte.
Je ne suis pas favorable à la maternité de substitution. Il n'y a aucune raison compréhensible de donner un enfant à une autre famille après la grossesse et même l'accouchement. Ce bébé n'appartient pas à un couple qui donne des ovules. Il doit appartenir à une femme enceinte de 9 mois. Vous devez savoir que l'enfant connaît ses parents avant même sa naissance. Vous ne devez pas venir dire que cet enfant vous appartient alors qu'il ne vous connaissait pas avant.
Je ne suis pas favorable à la maternité de substitution. Il n'y a aucune raison compréhensible de donner un enfant à une autre famille après la grossesse et même l'accouchement. Ce bébé n'appartient pas à un couple qui donne des ovules. Il doit appartenir à une femme enceinte de 9 mois.
Pour ma part, la pratique des mères porteuses ne pose pas de problème si une femme accepte de porter et de donner naissance à un enfant pour le compte d'une autre personne. Il n'y a pas de problème si cela se fait dans le cadre d'une compréhension mutuelle. C'est bien parce que les familles qui vont chercher des enfants dans les orphelinats les considèrent comme les leurs.
Le docteur Josiah Moutir est professeur d'obstétrique et de gynécologie à l'hôpital universitaire de Jos au Nigeria. Il nous en dit plus sur la gestation pour autrui et explique certains avantages et inconvénients de la maternité de substitution.
L'infertilité est un problème auquel nous devons faire face lorsque nous recevons des patientes dans le département de gynécologie. Le taux d'infertilité est assez élevé, en particulier en Afrique, où certaines maladies infectieuses bloquent les trompes d'Éphalope des femmes. Parfois, une femme peut avoir une grossesse et faire plusieurs fausses couches. Et à cause d'une frustration, elle essaiera parfois la fécondation in vitro 3, 4 ou 5 fois. Et vous savez, elle se dit simplement qu'elle ne réussira pas à nouveau et c'est pourquoi elle opte pour la maternité de substitution. La maternité de substitution est donc une pratique qui s'est imposée. Même si nous la pratiquons pas vraiment dans notre pays, elle est pratiquée d'une manière ou d'une autre dans d'autres zones. Mais je pense qu'elle est pratiquée au Nigeria. Personnellement, je n'y vois rien de mal. Comme je l'ai dit, en tant que scientifique, je sais fondamentalement que la religion dit qu'il ne faut pas commettre l'adultère et donc le mari de cette femme ne commet donc pas d'adultère avec la mère porteuse. Ce qu'il faut mentionner, c'est que ce n'est pas aussi simple que nous le pensons parce que bien souvent, lorsqu'elle le fait, lorsque la grossesse est mise en elle, qu'elle tombe enceinte et qu'elle porte la grossesse, quelque part, elle s'habitue à la grossesse et les choses lui appartiennent. Au fil du temps, nous avons constaté que la femme hésite à donner son bébé, de l'abandonner à quelqu'un d'autre. L'un des avantages de la maternité de substitution est que le sexe du bébé peut être choisi, déterminé. Ils peuvent donc déterminer le sexe masculin du futur bébé, par exemple. Parfois, après l'accouchement du bébé, le père biologique et les autres membres de la famille peuvent refuser de s'acquitter de leurs obligations. Ce sont là quelques-unes des choses pour lesquelles je dirais que les documentations sont parfois défaillantes. Et je vois les moyens disponibles pour le faire. Les mères porteuses sont disponibles. Là où il y a ce que nous appelons la FIV, la fécondation in vitro, pour aider les personnes qui n'étaient pas enceintes. La maternité de substitution peut être réalisée correctement. La seule chose à faire est de bien conseiller, expliquer, guider et suivre les personnes impliquées dans le processus. Permettez-moi de dire aux personnes qui désirent faire appel à une mère porteuse que c'est assez cher parce que la femme recevra des soins prénataux pendant toute la durée de la grossesse. Elle sera bien sûr nourrie, elle bénéficiera de soins prénataux et de toutes les analyses. Puis, vous devrez payer les frais juridiques parce qu'aucun avocat ne rédige un document pour vous le remettre gratuitement. Il faut donc payer les frais de justice et le forfait convenu. Il y a donc un accord global en dehors de l'argent qui sera dépensé pour obtenir des soins médicaux pendant la période de la grossesse.
C'est ici que s'achève notre programme « Votre santé, votre avenir ». Nous étions en compagnie du professeur Jean-Bernard Kwambon pour discuter des chances de guérison, de l'après-traitement et de quelques moyens pouvant permettre de minimiser les facteurs de risque d'un cancer du sein chez la femme dans cette deuxième partie consacrée au cancer du sein féminin. Le professeur Jean-Bernard Kwambon est chef du service de cancérologie médicale au CHU de Brazzaville et directeur du diplôme spécial de cancérologie à l'Université Marie Ngouabi en République du Congo. Ensuite, dans la seconde partie de notre programme, vous avez suivi Carnet de santé avec Linor Moudou. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph. À la réalisation, Vasco Valaric. À la présentation, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. Salut !
Retrouvez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique tous les samedis, dimanches et mercredis à 8h30 temps universel. Votre rendez-vous hebdomadaire qui vous permet de mieux connaître les maladies et les dernières nouvelles concernant la santé dans votre région grâce à l'intervention des médecins et d'autres professionnels de santé ainsi que les témoignages des patients. N'oubliez pas, votre santé, votre avenir, c'est tous les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel sur